Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de cette journée de m'avoir invité puis de me donner l'opportunité d'échanger avec vous. Pour préciser peut-être deux mots sur ce que j'ai fait et ce que je fais, j'ai travaillé beaucoup dans la politique de la ville. En étant, avant d'être à l'université, dans un institut d'aménagement régional de la région parisienne et en étant chef de projet dans un quartier politique de la ville pendant six ans à peu près. Voilà, donc ça explique aussi une partie de mes propos.
Oui, alors si... Je suppose que je fais OK, voilà.
Moi, je ne vais pas vous apporter de réponse. Vous avez vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les deux intervenants étaient les seules personnes à gauche, finalement les seules qui sont censées apporter des réponses, mais qui n'en ont pas. On va plutôt collectivement, je vous propose plutôt qu'on échange. Donc, je vais essayer d'être rapide. Donc, ça veut dire que je vais sans doute oublier des choses et ne pas pouvoir tout dire, ça c'est sûr, et oublier des choses importantes. Donc, je compte sur vous pour me les rappeler, enfin, nous les rappeler. Et puis que je vais aller très vite aussi, donc s'il y a des choses que vous voulez qu'on reprécise après, évidemment, c'est tout à fait souhaitable. Alors le titre est un peu provocateur, mais volontairement. Ceci dit, rassurez-vous, mon propos n'est pas de seulement critiquer et rejeter la notion de mixité sociale, mais d'en préciser un peu les contenus, de situer les débats qu'il y a autour de cela, et puis ensuite de réfléchir à la manière dont on peut travailler quand même avec ou en tout cas autour de cette idée. Alors, je vais dérouler mon propos en deux parties. Je vais revenir d'abord sur ce que cela veut dire, ou en tout cas comment on peut en cerner les contours, et revenir sur ce qui fait consensus, assez fortement quand même, et pourquoi il y a aussi de nombreuses critiques, notamment de la part des chercheurs, mais pas seulement, de cette notion. Et puis ensuite, je reviendrai sur les politiques d'habitat et les politiques urbaines qui sont mises en œuvre et leurs effets pour interroger et terminer sur, mais avec tout cela, qu'est-ce qu'on peut encore faire ou à quoi on peut réfléchir, et je vous proposerai des pistes. Alors, première chose, mais là vous n'allez pas apprendre grand-chose, c'est une notion qui est extrêmement floue. Quand on essaye de la définir, eh bien on peut dire qu'on veut ou qu'on se mélange, qu'on veut mélanger ou qu'on se mélange. Donc c'est effectivement le contraire de séparer, de laisser à part, donc presque le contraire de la ségrégation. Dans les politiques urbaines, c'est le cas. C'est un mélange d'éléments divers, c'est la définition du dictionnaire. Mais évidemment, ce que l'on mélange, où on le mélange, comment on le mélange et pourquoi on le mélange, ce sont des questions qui restent complètement entières, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir à la fois ce matin, mais aussi maintenant, mais aussi dans les ateliers. On en a parlé tout à l'heure. Au tout début, la notion de mixité, elle était surtout associée à la mixité scolaire, c'est-à-dire au fait que pendant longtemps, les filles et les garçons étaient séparés dans l'école. On l'a un peu oublié aujourd'hui, mais la question était celle de la mixité de genre entre hommes-femmes, et a été aussi longtemps simplement cantonnée à la notion de mariage mixte, donc de personnes d'origine différente. Après 1970, on est vraiment sur une notion qui est portée fortement par les politiques publiques, les politiques urbaines, les politiques de l'habitat, et qui donc consiste à mélanger des groupes sociaux dans la ville et dans les quartiers et dans les immeubles. Quand on essaye de réfléchir, je ne sais pas si vous réfléchissez, est-ce que vous avez en tête un quartier qui serait mixte, définitivement vous voyez, bon, si on commence à réfléchir à ça, on s'aperçoit qu'on est quand même plutôt sur un état idéal que sur une situation réelle et une situation durable. Donc on est plutôt sur une action. Là, c'est clair, il y a une action, il y a des politiques de mixité. Et je mets cette phrase parce que, effectivement, une des critiques aussi qui est faite à cette notion, c'est que finalement, on peut y mettre ce que l'on veut et on peut faire un peu des politiques différentes, finalement, avec cette notion. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce qui est certain, c'est que c'est une valeur aujourd'hui, une sorte de croyance auquel tout le monde adhère plus ou moins. C'est-à-dire qu'on ne va pas, on a vu tout à l'heure quand on s'est séparés, c'est très compliqué de dire je suis contre. Donc ça voudrait dire que je suis pour la ségrégation ou que... Donc il y a cette ambiguïté où forcément c'est une valeur assez positive. Et elle répond, et c'est ça que je voudrais un petit peu détailler plus précisément, elle répond à trois questions qui sont assez différentes. La question du mieux vivre ensemble, je vais appeler ça comme ça même si je n'aime pas trop cette expression, mais la question de l'égalité et la question de la cohésion sociale qui est portée beaucoup plus par le politique, mais qui est aussi un enjeu autour de ça. Alors, mieux vivre ensemble, je vous ai mis là des citations de philosophes, de sociologues, d'historiens qui considèrent que, qui mettent la notion de mixité autour de la notion d'échange, la notion de partage, la notion de métissage, et l'idée que si on se mélange, on vivra mieux ensemble, et que la diversité, la rencontre de l'autre, ce mot rencontre est important, favorise l'ouverture à la différence, la tolérance et vis-à-vis de l'autre. Et je vous ai mis aussi une citation d'un philosophe qui est intervenu dans le rapport de l'OMIS, l'Observatoire de la mixité sociale, qui a été mis en place par l'association Habitat Humanisme l'année dernière. Et donc je vous invite à aller regarder, parce que vous pouvez piocher, c'est en ligne, le rapport est en ligne. Et il avait fait un propos introductif qui était véritablement pour la mixité, en disant finalement, c'est une valeur de cosmopolitisme, et c'est un combat, même s'il est compliqué, ça reste un combat. Alors, plus d'égalité, là c'est déjà un peu plus compliqué, mélanger, se mélanger, être mélangé, pour réduire les inégalités sociales. De deux manières, parce que cela aura un effet sur les trajectoires des gens les plus modestes, et parce que cela aurait aussi un effet sur les inégalités territoriales de plus en plus fortes entre les communes, les bailleurs, les gens qui ont à gérer des concentrations de pauvreté, ce qui implique des dépenses publiques fortes, et ceux qui n'ont pas à gérer ces situations. Et les inégalités sont effectivement fortes entre les territoires. C'est une question importante qu'on ne sait pas non plus aujourd'hui totalement comment régler dans un contexte de réduction budgétaire des dépenses de l'État. Alors, je reviens deux minutes sur les effets de quartier. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent ce que sont les effets de quartier ? Ouais. De quoi on parle quand on parle d'effets de quartier ? Oui, quand même. Un ou deux ? Un petit peu. C'est important, je l'ai mis là, parce que ça permet de comprendre aussi pourquoi aujourd'hui il y a une justification de plus en plus forte des politiques de mixité. Les effets de quartier, c'est un terme qui nous vient des États-Unis, comme souvent, c'est la traduction de neighborhood effects. Et l'idée, c'est que on n'aurait plus seulement des inégalités sociales qui seraient le fait d'être ouvrier, d'être cadre supérieur, etc., mais qu'on aurait des inégalités qui seraient créées par la concentration ou qui renforceraient les inégalités sociales parce qu'on est concentré. Alors évidemment, quand on est concentré entre riches, eh bien, ça renforce le fait qu'on a des tas d'avantages. Quand on est concentré entre personnes pauvres, eh bien, on peut avoir des tas de désavantages. Alors pour aller un petit peu plus loin, il y a trois dimensions qui sont avancées par les chercheurs qui défendent cette idée, qui ont beaucoup appliqué ça aux États-Unis, évidemment, avec ce qu'ils appellent les ghettos noirs américains, où les situations de pauvreté sont extrêmes. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la situation française, quand même. Et l'idée, c'est, un, il y a des solidarités, il y a des relations familiales, il y a des relations communautaires, mais elles sont limitées à ces territoires. Je vous reprends ce qui est dit, hein, parce que c'est beaucoup critiqué, mais elles sont limitées à ces territoires et finalement, les gens ont moins accès à des réseaux plus larges qui leur ouvrent des opportunités, par exemple, en matière d'emploi, qui leur font voir autre chose que ce qu'ils connaissent au quotidien. Et évidemment, plus les gens sont au chômage, plus ils restent aussi dans leur quartier et plus ces effets sont forts. Deuxième élément, des normes. Alors ça, c'est aussi débattu, mais on voit bien que dans les discours politiques, c'est très fort. C'est-à-dire l'idée que si on vit entre personnes qui se ressemblent, eh bien, on va avoir des normes qui sont produites localement, qui ne sont pas forcément les normes de la société dans son ensemble. Par exemple, dans les ghettos dont parlent les Américains. Là, la norme, c'est de ne pas avoir, d'être une famille monoparentale, 90% hein, dans ces quartiers, de ne pas avoir de père, et donc et d'être, d'avoir son activité, je caricature un peu, mais c'est un peu ça quand même, dans l'économie souterraine, la délinquance, le trafic, etc. Et donc les modèles qui seraient positifs ne sont plus présents, et donc il y a une marginalisation de ces espaces. Et puis troisième élément, celui-là on peut a priori être d'accord, au moins les deux premiers on peut discuter, mais celui-là on peut être d'accord, c'est qu'il y a un effet de réputation et de discrimination du quartier qui joue aussi sur l'accès à l'emploi, sur l'image que l'on a du lieu où on vit et qui pèse fortement aussi sur les gens. Et quand on interroge les gens, c'est ça qui ressort en premier. C'est-à-dire, je n'ai pas envie que mes enfants soient pénalisés quand ils vont aller sur le marché de l'emploi. Voilà. Bon, je vais essayer d'aller vite parce que je pense que je vais aller... Alors, là, je vais aller vite. C'est l'idée que cela produirait plus de cohésion sociale. Alors, ça veut dire quoi ? Dans la ville, c'est très très ancien, c'est-à-dire que dès qu'il y a eu de l'urbanisme, hein, Gaston Bardet, c'est un urbaniste, Jane Jacobs a écrit sur les villes américaines, c'est l'idée que la ville, elle se fait aussi, et c'est très fort, elle se ferait par la diversité des usages, diversité des fonctions, diversité des personnes. Et puis, la rue étant le lieu principal, d'ailleurs, pour beaucoup d'urbanistes, de la mixité, de la rencontre, du côtoiement de gens différents. Et puis, la deuxième chose, ça renvoie plus au discours politique, hein, mais qui est très fort. Donc là, je vous ai mis un extrait d'un discours de Borloo, mais on pourrait en mettre de tas d'hommes politiques, sur l'idée que la nation est aussi faite par la mixité, et que si on n'a plus la mixité, on a des fractures sociales. Bon, Jacques Chirac, qui en son temps avait aussi introduit cette notion. Alors, juste un mot là-dessus, c'est que ça, c'est très français. Cette idée qu'on aurait des communautés qui se créeraient et qui fractureraient la nation. Il n'y a pratiquement aucun pays dans lequel, en Europe, on a ce type de discours, en tout cas posé de cette manière-là. Donc il y a un très très fort lien entre mixité et république, valeurs républicaines. Et on a vu notamment ce discours très fortement mis en avant au moment des émeutes de 2005, au moment des attentats, avec tous les amalgames que cela peut occasionner aussi. Alors, évidemment, c'est un objectif, là c'est à peu près clair, des politiques urbaines et de l'habitat, depuis longtemps, avec la même idée d'harmonie, d'équilibre. C'est au fondement du logement social. Je vous ai juste mis ces petites citations parce que vous voyez que ça commence dès qu'on met en place de l'habitat social. Célier, c'était le préfet de la Seine, les premiers logements sociaux, on était déjà préoccupés de diversité. On ne parlait pas de mixité, mais enfin c'est à peu près la même idée de mélange de catégories sociales. Et puis je vous ai mis une citation de Chambardelot, qui est sociologue, et qui évoque la création des grands ensembles, qui ont été à ce moment-là le lieu d'un mélange contraint, organisé par les attributions de logement, mais qui pour la première fois mélangeait de manière un peu autoritaire des gens dont les trajectoires étaient différentes, etc. Et il y a une sorte de nostalgie dans la tête des gens aujourd'hui, pour retrouver cette espèce d'état de diversité qui était au départ du peuplement des grands ensembles. Alors quand on est dans la politique, dans les politiques publiques, on définit plutôt la mixité par les revenus, par le niveau de vie à l'échelle résidentielle et par aussi le statut d'occupation des logements. On va y revenir. Alors, là, je vous ai mis un petit schéma un peu théorique, mais je pense que c'est intéressant pour discuter aussi sur les formes d'action publique. Aujourd'hui, on est sur une mixité qui est principalement résidentielle et scolaire. Tout ce qu'on fait est autour de la résidence, de l'école. Quand on regarde comment on peut agir pour essayer de faire en sorte que les gens puissent se côtoyer, se rassembler et vivre ensemble, eh bien, en France comme ailleurs, on agit sur l'offre de logement et sur le logement social, qui est un puissant instrument public. Et en France, évidemment, on a la chance, en tout cas, je pense, d'avoir encore du logement social. Et on va faire deux choses. Alors, j'ai mis des termes un peu rapides, mais on essaye, en gros, de déconcentrer la pauvreté là où elle est. Donc, on va démolir du logement social, reconstruire autre chose. Et puis, on essaye depuis les années 2000 de moyenniser les villes les plus favorisées, c'est-à-dire d'introduire du logement social pour introduire de la diversité dans des communes riches, pour aller vite. Ce qui est une spécificité française qu'on nous envie, cette loi solidarité renouvellement urbain de 2000. Et puis, un peu partout en Europe, on trouve le fait d'imposer aux promoteurs, aux opérateurs, un pourcentage de logement social dans leur programme. Donc, on peut agir sur l'offre de logement. On peut agir aussi sur les mobilités des populations, ce qui n'est pas tout à fait le même type d'action. Alors, en France, on a de plus en plus renforcé cette dimension-là, c'est-à-dire favoriser un accès au logement social par les attributions de logements sociaux. Donc aujourd'hui, il y a des quotas pour qu'on essaye d'accueillir des populations à revenus modestes dans les sites qui ne sont pas quartiers politiques de la ville. On a vu aussi des choses se mettre en place à Rotterdam, par exemple, où on limitait l'arrivée des populations pauvres dans les quartiers pauvres, mais résultat, eh bien, il y avait de la vacance, parce qu'ailleurs, les loyers étaient chers. Et bon, ça ne fonctionne pas très bien. Et troisième type d'aide, l'aide financière à la mobilité, qu'on ne pratique pas en France, mais qui est pratiquée aux États-Unis, et qui permet aussi de loger les gens, y compris dans du parc privé, avec une aide immobilière, une aide financière, pardon, qui leur permet d'accéder à une diversité de logements. Et donc, on propose à des gens qui ont envie de le faire, de déménager ailleurs. On fait aussi des politiques de démolition, mais voilà. Si vous voulez, on reviendra là-dessus, mais je voulais vous mettre ça. Et puis, on agit sur les lieux de scolarisation. La carte scolaire, c'est aussi une spécificité française, et qui était au départ pour localiser simplement les établissements scolaires à une distance très courte des habitations, et qui aujourd'hui est utilisée comme un instrument de mixité sociale, avec le succès qu'on lui connaît. Mais là aussi, on peut jouer sur la mobilité des populations. Donc, aux États-Unis, on a fait bouger des populations noires dans des écoles blanches. C'est comme ça qu'on dit, hein, aux États-Unis. Et en France, on a expérimenté ça. Alors, je ne sais pas si ça s'est fait sur Grenoble, mais sur un certain nombre de sites. C'est compliqué parce que souvent, ça veut dire que les enfants se déplacent loin pour aller dans des écoles qui ne sont pas forcément très proches de leur domicile. Mais voilà. Donc, là, parmi cela, tout ce qu'on peut faire. Alors, je vais revenir bien sûr sur les effets des politiques, mais quelques mots sur les termes du débat. Je pense que personne ne sera en désaccord sur les trois enjeux que j'ai évoqués, qui sont importants et qui sont à traiter, auxquels les politiques de mixité cherchent à répondre. Comment on traite la question de la ségrégation et des inégalités sociales et territoriales? Comment on fait pour vivre ensemble et comment on maintient une certaine cohésion sociale. Donc là-dessus, tout le monde est d'accord. Par contre, les désaccords, ils vont se faire sur le fait que la mixité, telle qu'elle est aujourd'hui mise en œuvre, soit une réponse à ces enjeux, ou l'unique réponse, ou la réponse pertinente à ces enjeux. Et les critiques, elles vont principalement se faire autour de trois points. C'est trop flou dans sa définition et dans ses usages, donc on ne sait pas très bien ce que l'on peut faire. Des postulats sociologiques, des vertus qui sont discutées, je vais y revenir deux minutes, et puis l'inefficacité, surtout, et les effets pervers des politiques que l'on mène aujourd'hui. Et ça, qu'on soit d'accord ou pas, pour l'instant, on n'a pas eu des politiques qui ont eu beaucoup de succès en matière de mixité sociale. Alors, les présupposés, ben, vous allez vous-même essayer de penser à ce que vous faites avec vos enfants, si vous en avez, avec votre lieu de résidence, comment vous avez choisi votre lieu de résidence. Et on voit bien qu'on est en permanence, et l'action publique doit faire avec des comportements qui ne sont pas des comportements de mixité sociale, qui sont plutôt des comportements entre soi, ou en tout cas on peut, d'agrégation et de distinction. Et ça, tous les travaux sociologiques le montrent, on va chercher à être à côté, surtout quand on est évidemment dans un lieu de résidence, hein, avec ceux qui nous ressemblent, ou auxquels on a envie de ressembler. Et puis on va chercher à se distinguer des autres. Ben, vous avez tous en tête des expressions sur « eux c'est la cité, nous c'est pas la cité »,« c'est les gens de la cité », ça voulant dire « on n'en est pas ». Évidemment, plus il y a de la discrimination sur le quartier, plus on a besoin de dire « je ne fais pas partie des gens à qui on attribue tel et tel comportement, tel et tel... Donc, on est vraiment sur quelque chose de très important, qui est fondamental et qui n'est pas, du coup, la mixité sociale. Proximité spatiale et distance sociale, bon, c'est un peu un terme obscur, mais en gros, vivre avec des personnes différentes au quotidien ne veut pas dire qu'on entre en contact avec eux. Est-ce que vous entrez en contact, je ne sais pas, avec vos voisins, avec les gens qui sont dans l'immeuble d'à côté? Oui, peut-être par des associations, etc., mais pas forcément dans des relations de voisinage. On peut avoir complètement des vies parallèles, même si on met des gens différents par des politiques publiques, on voit très bien qu'il y a des vies parallèles, de l'évitement. Et non seulement ça ne veut pas dire entrer en relation, donc il n'y a pas de vérité là-dessus, les choses se construisent, ce qui veut dire qu'on a une marge de manœuvre. Mais par contre, ça peut aussi exacerber les conflits. Plus vous êtes différent dans votre façon de descendre les poubelles, de trier vos ordures, je prends cet exemple-là parce qu'il est très parlant, mais on pourrait en prendre d'autres, plus vous êtes différent, moins vous avez les mêmes normes, et plus ça va être compliqué de s'entendre sur ce que c'est que l'usage commun, par exemple, de la cage d'escalier, ou du jardin, ou de... à la limite, on pourrait dire que plus on va se ressembler, plus ça va être facile de s'entendre. Et dans les écoquartiers, c'est très clair, quand on est sur des écoquartiers ou de l'habitat participatif qui est basé sur le volontariat, ben on a effectivement des gens souvent qui se ressemblent, sauf s'il y a des associations qui organisent les choses autrement. Évidemment, ça se passe plutôt bien parce qu'on va être d'accord. On partage à peu près les mêmes valeurs, on partage à peu près les mêmes façons de fonctionner. Donc plus on est à une échelle petite, en gros ce que je veux dire, c'est ça, plus ça va être compliqué. C'est-à-dire, si vous êtes à l'échelle de la cage d'escalier, ben là, vous partagez vraiment des espaces où c'est vous qui êtes en jeu. Si c'est sale, c'est vous qui êtes en jeu. Et l'école, évidemment, ben alors, c'est l'exemple le plus parlant, parce que tous les gens de gauche qui ont peur du déclassement, comme les autres, sont pour la mixité, mais pas pour leurs enfants. Donc, je ne jette la pierre à personne. Hein. Moi, je l'ai fait, je ne sais pas si je le referais. Donc de faire le choix de la mixité. Non, je plaisante. Mais ce sont mes enfants qui me disent « si, tu as eu complètement raison ». Mais il y a une ambiance générale qui est de peur du déclassement. Et les classes moyennes sont larges, hein, avec des niveaux de revenus larges, sont très préoccupées par ça. On a du mal à accéder à se faire du patrimoine de plus en plus si on n'en a pas déjà. Et donc la reproduction par l'école... C'est central, parce que c'est là qu'on va pouvoir se positionner, avoir un travail intéressant, etc., faire autre chose que ses parents, si on veut. Bon. Et donc, c'est très, très, très important. Et là, vous voyez bien que ce sont des choix individuels qui ne sont pas, là non plus, des choix de mixité sociale, sauf si vous êtes engagé, politique et autres. Avec chacun faisant son choix individuel. Si vous discutez ensemble, vous allez dire « Ah ben non, non, mais au bout d'un moment, là, ça allait au début, puis après, au collège, bon, il y avait de la violence, il y a toujours des explications, bon, le niveau n'est pas terrible, bon, voilà. » Et puis, on fait le choix de la dérogation ou du privé, donc on se met à part, et il y a un effet collectif de ces choix individuels. Donc, qui fait qu'on peut être dans un quartier très mélangé, et avoir des établissements scolaires qui ne le sont pas du tout. Alors, je termine sur ce qui est à interroger, c'est tout ce qui est autour de la question du ghetto. Hein, on dit effectivement, ce sont des ghettos, etc., mais quand, d'abord, on ne dit ça que pour les quartiers pauvres, alors que c'est la ségrégation des riches qui est la plus forte, si on regarde les évolutions, les cartes, ça c'est quelque chose en dynamique qui est très clair. Alors que du côté des quartiers populaires, c'est beaucoup plus nuancé. Il y a des quartiers mixtes. Bon, voilà. La mixité, la non-mixité, elle est du côté des riches. Or, il y a très peu de politiques, à part la loi SRU, la loi Solidarité Renouvellement Urbain, pardon, qui essaye d'aller contre ça. Deuxième élément, c'est que souvent, on dit mixité sociale, et en fait, on renvoie à la mixité ethnique. C'est-à-dire qu'on parle plutôt des origines, de la couleur de la peau, des familles maliennes dans le logement social, etc., etc., je pourrais... finalement, ça peut servir à légitimer des processus discriminatoires. C'est-à-dire qu'on va dire, ah ben non, en ce moment, je travaille sur les migrants, il y a des bailleurs sociaux qui disent, et peu importe, c'est pas un jugement là aussi, hein, mais qui disent, on en a déjà trop, je ne vais pas en accueillir. Oui, mais où ils vont ? Quand les seuls logements disponibles sont là où ils peuvent être accueillis. Donc on a une très grande difficulté. Et puis, dernier élément, c'est qu'il y a un certain nombre de gens, et les gens eux-mêmes d'ailleurs, qui sont très attachés à leur quartier et qui disent « mais on n'est pas d'accord, il y a des problèmes, mais on a aussi de la solidarité, des ressources, et ce n'est pas forcément entièrement négatif, à condition qu'on puisse choisir un tout petit peu et qu'on puisse en sortir ». Et puis, ça, c'est des questions pour les ateliers. Hein. Est-ce qu'on peut contraindre à la mixité ? Comment, pourquoi faire ? Et la rencontre se fait-elle et doit-elle être favorisée à l'échelle de la résidence et du logement ? Vous y avez déjà répondu dans les intitulés des ateliers. Je pense qu'on en rediscutera. Combien de temps il me reste pour que je ne fasse pas du débordement ? Alors, les effets paradoxaux des politiques menées, hein, qui est une des fortes critiques qui est faite à la mixité, c'est-à-dire, bon, d'accord. On peut être d'accord avec l'idée, on peut essayer de la mettre en œuvre, mais quand on la met en œuvre pour le moment, c'est quand même avec des succès relativement limités. Là, je vous ai mis ce que disait Jean-Pierre Sueur dans son rapport de 98, mais en fait, ceux qui connaissent la politique de la ville, depuis qu'elle existe, chaque fois qu'on fait une évaluation, on constate qu'on n'a pas réussi à faire de la mixité sociale. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, je sais pas si tout le monde connaît, mais voilà ce qui existe aujourd'hui, ce qui a été fait. On essaye de déconcentrer les populations pauvres des grands ensembles des années 60 et des quartiers populaires. Aujourd'hui, il y a aussi des copropriétés, ce qu'il n'y avait moins avant, et des quartiers anciens. Vous voyez qu'on met quand même pas mal d'argent dans ces politiques, donc il faudrait mieux qu'elles aient quand même un résultat positif. Je vous ai mis cette photo parce que c'est ma préférée, de Bagneux. C'est un journal de 1962, Paix et bonheur pour nos concitoyens, et cette barre a été démolie. Mais on n'avait pas tout à fait la même image à l'époque de ces ensembles. Donc on a, d'une part, cette politique qui consiste à... Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces grands ensembles ? Eh bien, très rapidement, laisser tomber de côté les questions peut-être plus techniques, mais quand même, elles ont leur importance. On démolit du logement social. On ne démolit pas du logement social pour le réduire, ce qu'on fait dans d'autres pays. En France, on veut garder le logement social, ce qui est quand même déjà un puissant instrument de diversité. On a la règle du 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on va reconstruire un logement, reconstituer un logement pour un logement social que l'on démolit. Un logement social pour un logement social démoli, pour garder le même nombre de logements. Par contre, on va les relocaliser ailleurs. Et donc, il y a tout un jeu qui est de plus en plus important, avec de plus en plus de contraintes des gouvernements, parce que ça ne marchait pas. Et donc, aujourd'hui, en 2014, on doit reconstruire majoritairement, enfin, tout le parc social, avec des ajustements quand même déjà de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, mais on devrait reconstruire tout ailleurs, le logement social, et non seulement ailleurs, mais dans des communes qui n'ont pas beaucoup de logements sociaux. On peut comprendre la logique. On est toujours sur la logique de répartition et de partage aussi de la pauvreté. Et donc on va non seulement... donc c'est 100% maintenant, alors que c'était 50% avant, et on va obliger aussi les communes dans lesquelles... Enfin, on va considérer qu'il faut faire du logement très social pour éviter que les communes se mettent à faire du logement un peu plus haut de gamme qui évite finalement les populations à revenus modestes. Donc on renforce en permanence les choses, j'espère que c'est à peu près clair. Et puis de l'autre côté, quand on a démoli, on réutilise le foncier qu'on a pour construire du logement privé, en accession sociale, avec des avantages importants mis en place par les gouvernements. Et puis on essaye de favoriser des parcours résidentiels positifs, c'est le langage de l'Agence nationale, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que les gens en profitent pour avoir un logement plus grand, un logement neuf. Je vais très vite sur l'autre volet, c'est la loi Solidarité Renouvellement Urbain qui a été réajustée à différentes reprises, qui, elle, n'est pas du côté des pauvres, mais du côté des riches, et essaye de construire du logement social là où il n'y en a pas. Et vous voyez que, alors on peut critiquer, la ville de Paris, par exemple, qui a joué entièrement le jeu, est passée de 14% de logements sociaux à, normalement, il devrait y en avoir 30% en 2030. Donc on est sur des choses qui, évidemment, ne sont pas massives, mais peuvent quand même avoir un effet important.
et pas seulement, là c'est par de l'acquisition, amélioration, mais bon. Alors, quels effets? Puis après je conclurai. Ça va? Quels effets? Je vous ai mis là la petite phrase extraite du comité d'évaluation et de suivi de l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui était chargée de faire le bilan du premier programme 2003-2013. Et qui dit, en gros, et ça tout le monde est d'accord, et il fallait le faire, on a amélioré le cadre de vie des gens, pas seulement d'ailleurs l'habitat, mais aussi l'urbanisme, les transports, enfin il y a eu beaucoup d'investissements aussi sur d'autres dimensions que la dimension habitat. Mais par contre, il y a des limites, et parmi ces limites, il y a les conditions de vie des habitants, c'est-à-dire que les gens sont toujours aussi pauvres quand ils sont pauvres, et la mixité sociale, c'est-à-dire que la composition sociale et les écarts entre ces quartiers et les autres ne se sont pas réduits, en tout cas, il y a des endroits où ça se passe, mais pas beaucoup, et la gestion urbaine, voilà, d'accord, mais ça va aller. La gestion urbaine, c'était convenu entre nous, la gestion urbaine n'a pas été suffisamment prise en compte, c'est toujours le parent pauvre des politiques de l'habitat et de la ville depuis le début. Hein. Donc, bon. Voilà. Donc on a démoli beaucoup moins que ce qu'on pensait, parce que c'est compliqué de démolir, et quand on démolit, il faut reloger, et le relogement a posé d'énormes problèmes aux acteurs locaux. Et puis, il y a eu des retours un petit peu sur, bon, peut-être que c'est pas si simple et qu'il faut qu'on fasse autrement. Donc, on n'a pas non plus démoli tous les quartiers d'habitat populaire. Je pense qu'il faut quand même le rappeler, même si... Alors là, je vous ai mis un petit schéma, simplement, je vais dire deux mots là-dessus. C'est qu'on a relogé, on a reconcentré. Pourquoi? Parce qu'il y a des processus structurels, c'est pas une volonté, une stratégie de reconcentration. Vous avez les ménages qui sont restés majoritairement dans les communes, pas forcément dans les quartiers, mais dans les communes, parce qu'ils le souhaitent, première chose, et parce que les autres communes ne sont pas tellement non plus ouvertes pour prendre leur part des ménages relogés, ou les autres bailleurs d'ailleurs, que ceux qui démolissent. Donc on a plutôt reconcentré très peu d'accès au logement neuf, mais ça... C'est un petit peu plus le vrai aujourd'hui. Et puis, on ne modifie pas le peuplement avec les relogements. Bon, là, je vous ai mis un exemple, c'est que c'est des reconcentrations qui se font à l'échelle de la commune, mais là, vous avez trois bars successifs qui ont été démolis, et en fait, les ménages ont été relogés de bar en bar. Je vais revenir un peu là-dessus, mais vous voyez bien pourquoi. C'est que ce sont des endroits où les logements ne sont pas chers. Voilà. Alors, élément... Pour illustrer une petite question, je fais des petites touches, hein, parce que c'est un peu rapide. Je vous ai mis là, c'est d'ailleurs Christophe Noyer, c'est pas de moi, l'exemple de la Seine-Saint-Denis, parce que ça nous intéresse beaucoup en Île-de-France, département le plus pauvre, un des départements les plus pauvres de la France aussi. Et vous voyez, à gauche, c'est la reconstitution de l'offre de logements sociaux, et la comparaison entre ce qu'a fait la Seine-Saint-Denis et ce qu'ont fait les autres départements. Et vous voyez que c'est en Seine-Saint-Denis, là où il y a déjà une très grande concentration de logements sociaux et de logements sociaux à bas loyer, qu'on a reconstruit le plus de logements sociaux et à bas loyer. Et quand vous regardez à droite, c'est là aussi qu'on a reconstitué le plus les logements sociaux dans les quartiers. Alors, on peut avoir deux interprétations de cela. C'est-à-dire, en termes de territoire, c'est effectivement un renforcement des différenciations qui existent. Ce n'est pas la rénovation qui les produit, ça existe. Elles sont à des échelles beaucoup plus larges. Mais par contre, on peut se poser la question de savoir s'il vaut mieux pas être relogé en Seine-Saint-Denis ou être un relogé dans les Hauts-de-Seine. Si on est attaché à son quartier, si on a envie d'accéder à la propriété à un bas coût, et bien il vaut peut-être mieux être en Seine-Saint-Denis. Je pousse un peu le... Mais voyez, parce que finalement, c'est aussi, ça répond à une demande des habitants, qui sont attachés à leur quartier, et ça répond aussi à l'idée qu'il y a des gens à l'intérieur de ce quartier qui sont divers, certains voulant et pouvant acheter aussi parmi les gens qui habitent dans ces quartiers. Donc on est en Seine-Saint-Denis clairement sur une logique de promotion des populations locales et de maintien des populations locales, alors pour des raisons diverses, mais et aussi pour des contraintes diverses. Et puis dernier élément, j'aurai après 5 minutes pour conclure, ça va ? Pour montrer, là, j'ai pris un exemple hors de l'Île-de-France pour... quand on regarde ce qui se passe, donc là je vous ai montré plutôt ce qui se passait du côté des relogements, quand on regarde ce qui se passe du côté des nouveaux logements, eh bien ce qu'on constate c'est qu'on a une fragmentation interne. C'est-à-dire que les grands ensembles ils sont en train d'éclater en différents sous-secteurs qui sont marqués par des différences aussi sociales et de loyers. Là, enfin, là c'est des prix, hein, c'est de l'accession. Ce que vous voyez c'est que, pour ceux qui connaissent, hein, au milieu c'est le plateau de la Duchère, dans lequel il y a eu beaucoup de démolitions et qui était un des endroits les plus marqués par l'occupation très sociale. Et puis, des deux côtés, vous avez des petits ensembles d'accession privés qui se sont mis aux franges, hein, donc un peu à distance du quartier, parce qu'ils pouvaient le faire, avec des avantages. Et plus on est proche de quartiers favorisés, plus les prix sont élevés. Alors, là aussi, est-ce que c'est un problème ? On peut dire c'est une fragmentation alors qu'on voulait réunir. Hein, si on est sur l'idée d'unité, évidemment, on n'a pas uni, on a plutôt fragmenté. Mais en même temps, je fais exprès de dire ça comme ça, si on n'avait pas laissé les gens, si on n'avait pas donné la possibilité aux gens des Balmes d'être un peu à l'écart du quartier, est-ce qu'ils seraient venus et restés ? Bon. Et donc ça pose la question, si vous voulez, derrière, de l'échelle à laquelle on raisonne. C'est-à-dire pour le quartier, pour la ville, c'est peut-être mieux d'avoir une diversité. Est-ce que c'est important qu'elle soit à l'échelle de la coexistence, bon, sachant que, par exemple, les gens fréquentent tous le Lidl ou des magasins qui sont au centre. Bon, voilà, donc c'est une petite réflexion. J'ai peut-être passé, on reviendra là-dessus, sur la moyennisation des villes favorisées. Je vais pas... Là, c'est juste pour vous montrer qu'il faut faire avec les processus. Hein. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? Il n'y a pas forcément des stratégies volontaires d'éviction, des je ne sais pas quoi. Vous voyez que là, les ménages qui rentrent dans le parc social, c'est continu de plus en plus pauvre. Deuxième élément, le loyer abordable, il est beaucoup plus abordable dans le parc ancien. Et le logement neuf est beaucoup plus cher, donc beaucoup plus de gens avec des revenus un petit peu plus élevés. Et élément important, quand vous regardez la mobilité résidentielle, qui est un autre processus qu'on ne regarde pas assez, maintenant ça commence à être un peu plus pris en compte, ben vous avez la moitié des habitants. On ne parle pas des mêmes habitants, donc comment on fait pour faire des politiques locales avec des gens qui ne sont pas forcément là quelques années après, d'une part ? Ça veut dire qu'il y a des trajectoires, ça veut dire qu'il y a des gens qui continuent de partir, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui continuent de passer par ces quartiers et d'y trouver un intérêt et puis de continuer leur trajectoire. Ça veut dire que, et des trajectoires diverses, qu'on ne voit pas toujours, mais ça veut dire qu'on a un paradoxe parce que bah, plus finalement la politique de la ville réussirait, plus on aurait des départs, donc moins on aurait de mixité. Donc là, il y a une espèce de contradiction entre est-ce qu'on favorise la mobilité des gens, leur mobilité, leur évolution sociale et résidentielle, ou est-ce que on s'intéresse à la paupérisation du quartier. Et c'est, on en parlait tout à l'heure, évaluer à l'aune de la mixité, moi je veux bien, mais je vous parie que dans 10 ans, on dira, il n'y a toujours pas de mixité. Parce qu'en fait, si on regarde les écarts entre les territoires, on ne prend pas en compte ces processus de mobilité et on est incapable de dire quels ont été les effets des politiques, éventuellement sur les trajectoires des populations. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai problème avec la mixité si on s'en sert comme un indicateur de la réussite des politiques. Parce qu'on va se retrouver, pas partout, mais enfin... Bon. Alors, je conclue. Je peux ? Donc là, je vous ai mis Fitoussi, c'est un économiste. Lui, il est pour la mixité en disant, finalement, on a besoin de ça pour augmenter la production globale. Donc, c'est intéressant, c'est un argument de choc. Alors, comment on en redéfinit ? Bon, Soit on fait ça, hein, c'est-à-dire on dit c'est une utopie, une chimère. Bon, je vous ai mis toutes les choses parce que là, les chercheurs n'aiment pas beaucoup la mixité. Donc je vais vous proposer plutôt des pistes de réflexion pour en redéfinir localement le sens et se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire et pour qui. Et là, ben, je vais vous proposer... Alors celui-là, il est un petit peu compliqué, mais en gros, si vous voulez, l'idée, c'est... il faudrait regarder quand même la diversité des territoires. Parce que ça ne veut pas dire la même chose, si on reste sur les politiques d'habitat et de ville, ça ne veut pas dire la même chose. À Paris, la mixité, ça veut dire faire du logement social, absolument, et faire du logement social pas cher, et se débrouiller pour que les familles, les populations, les quartiers, les classes populaires et moyennes puissent rester à Paris, ce qui est aujourd'hui très, très problématique. Et puis, comme on a de l'argent à Paris, ben, il faut faire des politiques redistributives vis-à-vis des populations les plus pauvres. Enfin, il faut, c'est facile à dire, hein, quand on est chercheur et qu'on... À Orly, par exemple, on est un petit peu comme dans la Duchère, on a de la fragmentation. Est-ce que c'est gênant? La ville d'Orly dit, moi, j'ai toujours favorisé la promotion résidentielle des gens de ma ville, c'est 60% de ma ville. Par contre, là, ben, la mixité, c'est plutôt à une autre échelle qu'il faut la trouver. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est que les gens dans des résidences différentes puissent se rencontrer à un moment donné. Pas forcément à l'échelle de leur cage d'escalier ou de leur immeuble. Et puis, on est sur la poursuite de la paupérisation quand même dans un grand nombre de sites de la Seine-Saint-Denis. Je vous ai pris la Courneuve. Eh bien là, c'est franchement plutôt du côté des politiques régionales qu'il faut aller voir. C'est-à-dire qu'on voit bien, là, il y a une opportunité du Grand Paris qui va être très importante. C'est-à-dire qu'on va avoir des transports qui peuvent favoriser l'accessibilité des populations. Et puis, il faut qu'il y ait des politiques sociales et des services publics qui soient portés. C'est pas la ville de la Courneuve qui peut payer ça. Voilà. Mieux mixité et vivre ensemble. Moi, je pense que la question, c'est aujourd'hui aussi de se demander pourquoi est-ce que c'est critiqué. C'est parce qu'on ne sait pas quel est le bénéfice ou quels sont les bénéfices pour les populations les plus modestes. Et donc, comment on peut faire en sorte, j'ai pas de solution, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont faites qui sont intéressantes à des échelles très petites, comment on peut faire en sorte de favoriser plus de réciprocité? C'est-à-dire que d'accord, on installe... donc là, je vous ai pris deux exemples. Et il y a beaucoup de choses qui se passent du côté des associations et de la société civile là-dessus. C'est-à-dire, les CAPS, vous connaissez, puisqu'il y en a à Grenoble, des colocations solidaires où les étudiants s'installent dans des logements en rénovation urbaine qui sont moins chers. Je ne sais pas si ça... Vous direz si ça continue. Moi, quand je suis allée, ça marchait. Maintenant, je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on leur demande de faire un projet social avec les habitants. C'est-à-dire, c'est donnant-donnant. Et même chose, Habitat Humanisme a beaucoup d'opérations, mais il y a d'autres associations qu'Habitat Humanisme. J'ai pris cet exemple-là parce que je les connais bien. Où on favorise la mixité intergénérationnelle, où on est sur le volontariat, sur le choix des populations, dans des pensions de famille, dans des villes riches d'ailleurs, où on propose aux gens, voulez-vous vivre ensemble? Donc viennent des gens qui ont envie de vivre ensemble. Et puis on introduit quand même des gens, il y a toujours des gens qu'il faut réintroduire, parce que par exemple les migrants, on les réintroduit quand même, mais on va faire de l'accompagnement social autour de ça. Et donc ça me semble des pistes intéressantes. Voilà, et puis quand même si, dernière... Est-ce qu'on peut se dire qu'on peut aller vers plus d'accessibilité et de choix résidentiels? Parce qu'à chaque fois qu'on parle, on dit qu'il faut faire de la mixité, il faut mélanger les gens. Mais est-ce que les gens ont envie d'être mélangés? Et qu'est-ce que les gens veulent? Et les gens sont très divers dans leurs envies, dans leurs trajectoires, dans leurs aspirations. Voilà. Et si on leur posait un peu la question, ça irait peut-être un peu mieux. Et évidemment qu'il y a des contraintes. Évidemment, quand on n'a pas de ressources, on ne va pas pouvoir aller... Mais comment on peut dégager de la marge de manœuvre? Et chaque fois qu'on dégage de la marge de manœuvre, même toute petite, on s'aperçoit que ça se passe beaucoup mieux. Donc, c'est le choix résidentiel, l'accessibilité. Il faut qu'il y ait, donc, il faut construire du logement social partout, ça, évidemment. Et aux ressources et aménités de la ville. Par exemple, à la Courneuve, il ne suffit pas de mettre une offre de transport. C'est est-ce que les gens vont pouvoir l'utiliser? Est-ce qu'ils vont pouvoir payer le transport? Est-ce qu'ils vont avoir des emplois pour aller utiliser les transports, etc. Voilà. Donc c'est comment on peut redistribuer. J'arrête parce que sinon... on pourra y revenir dans la discussion.